Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est un fait. Depuis quelques années, Antonio Gramsci est fréquemment cité et semble être devenu une référence. Le théoricien politique dans le vent, pour bon nombre de représentants politiques, à gauche, mais aussi à droite. Si partout du côté des penseurs et des mouvements révolutionnaires, Gramsci n'a jamais vraiment cessé d'être une référence, on peut s'étonner que son nom se soit imposé dans les discours d'un camp politique diamétralement opposé au sien. Au point qu'on serait tenté de dire, avec Mark Twain, que les gens de gauche inventent de nouvelles idées et que, quand elles sont usées, les gens de droite les adoptent. Ainsi, en 2007, avant le premier tour de l'élection présidentielle, a-t-on pu entendre Nicolas Sarkozy déclarer « Au fond, j'ai fait mienne l'analyse de Gramsci. Le pouvoir se gagne par les idées. » Après lui et à sa droite, comme en écho à une nouvelle droite qui, dans les années 70, prônait déjà un gramschisme de droite, on affirme qu'il est temps d'appliquer les leçons d'Antonio Gramsci. Abondamment cité donc, Gramsci, galvaudé même, mais peut-être bien à proportion du faible nombre de ses véritables ou honnêtes lecteurs. Que l'émission qu'en 1987, Francesca Piolo consacrait au théoricien marxiste italien soit alors une invitation à le lire ou le relire de plus près. Une vie, une œuvre, Antonio Gramsci, penseur de l'échec, une émission diffusée la première fois le 22 janvier 1987 sur France Culture.
Je suis un homme de parti, je vis, je sens déjà dans les consciences viriles de mon parti battre l'activité de la cité future que mon parti est en train de construire. Je vis, je suis un homme de parti. C'est pourquoi je hais qui ne prend pas parti, je hais les indifférents.
Nous devons empêcher ce cerveau de
fonctionner pendant 20 ans.
Nous devons empêcher ce cerveau
de
fonctionner
ce cerveau de fonctionner
pendant
20 ans. Une vie, une œuvre. Antonio Gramsci, penseur de l'échec. Par Francesca Piolo et Jean-Claude Loiseau.
Nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner.
Avec la participation de Christine Bussy-Glucksmann, Paolo Fulchignoni, Robert Paris, Hugues Portelli.
Nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans.
Nous devons empêcher ce cerveau
de fonctionner pendant 20 ans. Pendant 20 ans.
Nous devons empêcher ce cerveau de
fonctionner. La morte di Pasolini. Che la morte m'ha venuto a visitare. E leva le gambe tue da questo regno. Persi le forze mie, persi l'ingegno.
Un chiffon rouge, comme celui noué au cou des partisans. Et près de l'urne, sur le sol cendré, deux géraniums d'un rouge différent. Te voici donc, banni, en ta grâce sévère, non catholique, enregistré parmi ces morts étrangers, les cendres de Gramsci. Pris entre l'espérance et la vieille défiance, je m'approche, venu par hasard en cette maigre serre, face à ta tombe et à ton esprit qui est resté ici-bas parmi ces gens libres. Ou bien c'est quelque chose de différent peut-être, de plus extasié, de plus humble aussi. Ivre symbiose d'adolescence, de sexe et de mort. Et en ce pays où jamais ne fit trêve ta passion, je sens quel fut ton tort, ici dans le repos des tombes. Et en même temps combien tu eus raison, en notre inquiet destin, d'écrire tes ultimes pages pendant les jours de ton assassinat. Je vois ici, attestant la semence non encore dispersée de l'antique pouvoir, ces morts attachés à une possession qui plonge au fond des siècles son abomination et sa grandeur, et aussi, obsédante, cette vibration d'enclume en sourdine, étouffée, poignante, depuis l'humble quartier, pour en attester la fin.
Le rapport qu'on entretient à l'œuvre de Gramsci est tout à la fois un rapport historique avec ce qu'il nous donne à comprendre du présent.
Christine Bussy-Glucksmann.
Et lui-même, d'ailleurs, dans les lettres, dit toujours qu'il ne peut penser qu'en situation dialogique. Et donc, il a besoin de l'autre pour être lui-même. Donc, quelque chose qui a rapport au présent et en même temps quelque chose qui dépasse ce présent. C'est-à-dire que lui qui, dans les années 20, a été mêlé au fond et a été l'agent d'un des plus grands mouvements de l'histoire du mouvement ouvrier italien, c'est-à-dire le mouvement des conseils, et qui, à partir de là, a tenté une sorte de traduction de l'expérience soviétique, à partir d'une démocratie qu'il appelait à l'époque ouvrière, et puis ultérieurement dans les cahiers de prison, une démocratie organique, une démocratie au sens authentique du terme, s'est trouvé dans une situation tout à fait dramatique. 1922, c'est l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Et au fond, il est député en 24 et arrêté en 26. Et donc, alors que, au fond, son projet était de retraduire une situation révolutionnaire, il est devenu le penseur de l'échec de la révolution. Et je dirais que ce qui m'avait intéressé beaucoup, c'est précisément de penser l'histoire, non pas à partir de son succès, mais à partir de son échec. C'est-à-dire une histoire vue du point de vue de ceux que Gramsci appellera les classes subalternes, c'est-à-dire une histoire noire, une histoire à contre-courant, au fond. Et à l'époque, il m'avait semblé que le point focal de cet échec, c'était de ne pas avoir pensé, disons, dans l'histoire, et dans l'histoire du mouvement ouvrier en particulier, l'État. Au fond, ce qui me rattache à l'œuvre de Gramsci, c'est ce qu'il appelait lui-même, en reprenant une expression de Romain Rolland, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Et je crois qu'il y a, dans cette volonté de voir les dictatures noires, de voir l'histoire à l'envers, de voir l'histoire dans une temporalité qui n'est pas la continuité des puissants, mais que Walter Benjamin appellera celle des sans-noms, et je crois que l'histoire de Gramsci, c'est l'histoire des sans-noms, quelque part. Eh bien, il y a une forme de courage, et cette sorte de courage de la pensée me paraît de plus en plus grand.
May 1928. Très chère maman, je suis sur le point de partir pour Rome. C'est maintenant sûr. Cette lettre m'a été accordée tout exprès pour t'annoncer mon changement. Aussi, écris-moi à Rome à partir de maintenant et tant que je ne t'aurai pas averti d'un autre changement. Hier, j'ai reçu une lettre recommandée de Carlo, du 5 mai. Il m'écrit qu'il va m'envoyer ta photographie. Je serai très content de la voir. À cette heure, tu as dû recevoir la photographie de Delio, que je t'ai expédiée il y a une quinzaine de jours, en recommandé. Très chère maman, je ne voudrais pas te répéter ce que je t'ai souvent écrit pour te rassurer sur mon état physique et moral. Je voudrais, pour être vraiment tranquille, que tu ne t'effraies pas, que tu ne t'alarmes pas trop, quelle que soit la condamnation qu'on pourra m'infliger. Que tu comprennes bien, même de manière affective, que je suis un détenu politique et que je serai un condamné politique. Que je n'ai pas et n'aurai jamais à avoir honte de cette situation. Qu'au fond, cette détention et cette condamnation, c'est moi-même qui les ai voulues, d'une certaine façon. Puisque je n'ai jamais voulu changer mes opinions pour lesquelles je serais prêt à donner ma vie et pas seulement à rester en prison. Que, par conséquent, je ne peux être que calme et content de moi-même. Chère maman, je voudrais vraiment te serrer fort, très fort, dans mes bras, pour que tu sentes combien je t'aime et combien je voudrais te consoler de cette peine que je t'ai donnée. Mais je ne pouvais pas faire autrement. La vie est ainsi, très dure, et les enfants, quelquefois, doivent faire beaucoup de peine à leur mère s'ils veulent conserver leur honneur et leur dignité d'homme. Je t'embrasse tendrement. Nino.
Le Gramsci sur lequel j'ai commencé à travailler, le Gramsci que j'ai aimé, c'est ça a été presque un coup de... Enfin, oui, une sorte de coup de foudre philosophique.
Robert Paris.
C'était d'une part, au plan de la théorie, un intellectuel qui essayait de pratiquer un marxisme ouvert. Une lecture hégélianisée aussi, c'est dans le... du marxisme ou un marxisme hyper-hégélianisé. C'est-à-dire, d'une certaine façon, sans entrer dans les détails, je pense que Gramsci nous offre une sorte d'équivalent de ce que Lukács a offert à d'autres. C'est-à-dire un marxisme hyper-idéalisé, hyper-hégélianisé. Un marxisme romantique. Et il y a l'autre aspect, alors, qui a été probablement encore plus important pour moi, c'était que Gramsci était l'un des animateurs du journal L'Ordine Nouveau, le premier Ordine Nouveau. Et c'était un théoricien du mouvement des conseils ouvriers.
Operai e contadini, abbiamo perso le elezioni, è stata colpa dei traditori che han tradito la libertà. Comperare da quei signori capitalisti che han tradito i comunisti e i suoi compagni lavoratori, che han tradito i comunisti e i suoi compagni lavoratori.
La question qui est posé par la lecture des cahiers de prison, c'est de savoir à qui s'adresse Gramsci et de quoi traite-t-il.
Hugues Portelli.
Or, à la lecture des cahiers de prison, on s'aperçoit que la réflexion de Gramsci ne porte pas uniquement sur ce que serait l'avenir politique de l'Italie et du mouvement communiste, à l'époque où Gramsci écrit, c'est-à-dire dans les années 30, mais également constitue une réflexion critique sur l'action passée. Et là, je crois que se trouve l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a une réflexion critique sur un échec. L'échec de la révolution en Italie, l'échec de l'entreprise politique a été la construction d'un parti communiste de type léniniste, mais adapté au contexte italien, et plus généralement, l'échec de la révolution communiste en Europe occidentale. Il part d'une réflexion qui était celle aussi formulée par d'autres communistes occidentaux à la même époque. Je pense par exemple à Max Adler, je pense à Lévy pour le Parti communiste allemand, qui repose en gros sur l'idée que le contexte socioculturel des pays d'Europe occidentale est radicalement différent de celui de l'Union soviétique, de la Russie de 1917. Et que donc on ne peut pas transposer mécaniquement les règles qui ont prévalu en octobre 17 en Russie, dans des pays aussi complexes au niveau de leur stratification sociale et culturelle, où l'État est une création déjà extrêmement ancienne, et où les classes dirigeantes ont une vieille expérience de leur rapport avec les classes dominées. C'est un débat, d'ailleurs, si on veut se rappeler l'histoire du mouvement socialiste européen, qui avait déjà été soulevé en 1905, lors de la première révolution russe, et qui avait caractérisé l'affrontement entre Rosa Luxembourg, par exemple, et Kautsky, sur la validité de l'utilisation des instruments, à l'époque c'était les soviets, qui étaient apparus à l'occasion de cette révolution de 1905.
Oh, di bottai de manna, anini, anini, agromisa, mia, brahma.
Je suis depuis longtemps, si longtemps habitué à croire qu'il existe une impossibilité absolue, presque fatale, à ce que je sois aimé. À 10 ans, je le croyais déjà, en ce qui concernait mes parents. J'étais obligé de faire trop de sacrifices, et ma santé était si faible que je m'imaginais n'être qu'un intrus dans ma famille, un être que l'on tolérait. Ce sont là des choses que l'on n'oublie pas facilement, qui laissent des traces beaucoup plus profondes qu'on ne saurait penser.
Gramsci écrit dans une lettre de prison, très belle, le 21 octobre 31, « Moi-même, je n'ai aucune race. Mon père est d'origine albanaise, récente. Ma mère, une Gonçalès, est descendante d'une famille italo-espagnole, et donc sa mère était sarde. Et il ajoute, « Cependant, ma culture est italienne, et c'est mon monde à moi. » Autrement dit, la formation de Gramsci, non seulement le fait que, comme vous le savez, à 4 ans, bon, il tombe et il a cette sorte de malformation qui l'isolera quelque peu du monde, son aspect froid, comme il le dira toujours, mais je dirais cette formation d'une pluralité de couches culturelles, il est lui-même, je dirais, le modèle de quelqu'un qui a tout à la fois une langue, qui est la langue sarde, une culture universelle et même cosmopolite, par l'italien. Et il est lui-même le modèle, je dirais, de ce qu'il a décrit. À propos de ses enfants en prison, il écrit à sa belle-sœur, à Tatiana, « Dans quelle langue parle-t-il ? Parle-t-il en sarde ?» Bon. Donc, il y a eu toujours chez lui une attention à ce qu'on pourrait appeler une situation pluriculturelle. Et je crois que ça explique son intérêt pour lire et interpréter la culture, pas seulement dans son dit savant, mais dans ses origines lointaines. Je donne un exemple. Quand il s'interroge, et avec un arrière-fond, je pense, politique, sur le surhomme, sur le mythe du surhomme, et donc sur l'œuvre de Nietzsche. Bien évidemment, c'est pas du tout innocent, car au fond, c'est tout le problème du statut de la personnalité, des différents cultes et rhétoriques de la personnalité, fasciste Mussolini, avec toute sa théâtralisation de la politique, mais aussi stalinienne, qui est en question. Or, ce qu'il essaie de montrer, c'est les racines de ce mythe, de ce qu'il appelle le surhomme. Et il prend toute la littérature du XIXe siècle, en particulier la littérature française, tous les modèles des héros populaires, à travers Victor Hugo, à travers Alexandre Dumas, à travers Eugène Sue, pour essayer de reconstituer une sorte d'archéologie des modèles sociaux. Parce que pour lui, la culture, ce n'est pas simplement la culture savante, mais la culture touche à ce qu'il appelle les modèles de vie. C'est ce qu'il lui fera dire, par exemple, que tout homme est un intellectuel, mais que tout homme n'a pas dans la société une fonction intellectuelle. Là, il y aura historiquement une grande affinité entre Pier Paolo Pasolini et Gramsci, qui retrouvera justement chez Gramsci cette situation italienne de pluridialectale, d'une langue qui n'est pas encore homogénéisée, comme elle le sera, et identitaire, comme elle le sera à partir du boom capitaliste. Et il me semble que là, on a une confrontation entre ce qu'on peut appeler dialecte et langue culturelle, culture populaire, culture savante, entre diffusion de modèles de vie enracinés dans une histoire de longue durée et élaboration intellectuelle, c'est-à-dire toute une stratification de la notion d'idéologie.
J'ai un lit fixé au mur avec deux matelas, dont un de laine. On change les draps environ tous les 15 jours. J'ai une petite table et une sorte de petite armoire commode, une glace, une cuvette et un broc en fer émaillé. Je possède de multiples objets d'aluminium achetés à la Linacente, qui a installé un point de vente dans la prison. J'ai quelques livres à moi. Chaque semaine, je reçois en prêt 8 livres de la bibliothèque de la prison. Abonnement double. Pour que tu te fasses une idée, je vais te donner la liste de cette semaine, qui est toutefois exceptionnelle, vu la qualité relative des livres que j'ai eus. Premièrement, Pietro Coletta, Histoire du royaume de Naples. Excellent. Deuxièmement, Vittorio Alfieri, Autobiographie. Troisièmement, Molière, Comédie choisie, traduite par le sieur Moretti. Traduction ridicule. Quatrièmement, Carducci, 2 volumes des œuvres complètes, très médiocres, parmi les plus mauvais de Carducci. Cinquièmement, Arthur Lévy, Napoléon intime, curieux, apologie de Napoléon comme homme moral. Sixièmement, Gina Lambroso, L'Amérique méridionale, très médiocre. Septièmement, Arnaque, L'essence du christianisme. Virgilio Brocchi, Le destin au point, Roman. De quoi vous faire tourner en bourrique. Salvatore Gotta, ma femme. Heureusement que c'est la sienne, car elle est fort ennuyeuse. Le matin, je me lève à 6h30, on sonne le réveil à 7h. Café, toilette, nettoyage de la cellule. Je bois un demi-litre de lait et je mange un petit pain. À 8h environ, promenade qui dure 2h. Je me promène, j'étudie la grammaire allemande, je lis La maîtresse paysanne de Pouchkine et j'apprends par cœur une vingtaine de lignes du texte. J'achète Il Sole, journal industriel et commercial, et je lis quelques nouvelles économiques. J'ai lu tous les rapports annuels des sociétés par action. Le mardi, j'achète Il Corriere dei Piccoli, qui m'amuse. Le mercredi, La Domenica del Corriere. Le vendredi, Le Méchant Guérin, soi-disant humoristique. Après la promenade, café. Je reçois 3 quotidiens, Corriere, Popolo d'Italia, Secolo. À présent, le Secolo sort l'après-midi et je ne le prendrai plus, car il ne vaut plus rien. Le déjeuner arrive à des heures variables, entre midi et 3h. Je réchauffe la soupe, bouillon ou pâte. Je mange un petit morceau de viande, un petit pain, un petit morceau de fromage, pas de fruits, car je n'aime pas, et un quart de vin. Je lis un livre, je me promène, je réfléchis sur un tas de choses. À 4h, 4h30, je reçois 2 autres quotidiens, La Stampa et le Giornale d'Italia. À 7h, je dîne, soupe, 2 œufs durs, un quart de vin. Le fromage, je ne réussis pas à le manger. À 7h30, sonne l'heure du silence. Je vais au lit et je lis des livres jusqu'à 11h, minuit. Depuis 2 jours, vers 9h, je bois une tasse de camomille. La suite, au prochain numéro, parce que je veux te parler d'autre chose.
Pour lui, la presse est un outil, non pas tant d'information qu'un instrument pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le journal politique comme instrument de formation des masses ouvrières. Et cela explique pourquoi Gramsci, dans les années 1917-1919, non seulement sera journaliste, par exemple à l'édition milanaise, puis turinoise de l'Avanti, le journal national du Parti Socialiste Italien, mais créera lui-même des journaux, et même des revues, le fameux Ordine Nuovo. Alors pourquoi ? Parce que l'idée, c'est d'utiliser la presse comme véhicule d'abord d'informations sur l'ensemble des expériences du mouvement ouvrier dans le monde. Et dans l'Ordine Nuovo, par exemple, une grande partie des articles étaient consacrés à donner des informations sur la révolution en Russie, sur les grandes grèves en Angleterre, aux États-Unis, sur le syndicalisme français, etc. D'autre part, de faire un travail de pédagogie culturelle, et d'où le fait que, par exemple, Gramsci sera critique littéraire, critique théâtrale pendant 2 ans à l'Avanti, mais c'était un critique littéraire qui essayait de resituer des œuvres dans un contexte socio-économique, dans une tradition, dans une histoire d'une société donnée. Et puis en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que parallèlement au travail qui est fait par Gramsci comme journaliste politique, eh bien, il y a un travail pédagogique fait par Gramsci en tant qu'homme politique. Et par exemple, c'est le moment où Gramsci se lance dans des expériences au niveau de clubs culturels. Par exemple, le club de vie morale qu'il créera en 1919. Le terme de morale doit être pris dans un sens très large. Et l'Ordine Nuovo, aujourd'hui, c'est vrai, c'est le nom d'un groupe d'extrême droite en Italie. Mais l'idée que la révolution sociale ne sera révolutionnaire que si elle est aussi éthique, si elle est aussi morale, c'est une idée qu'on retrouve par exemple en France, très profondément enracinée au sein de la CGT. De la CGT, du Congrès d'Amiens, et de la période donc du syndicalisme révolutionnaire. Alors, donc, un travail de pédagogie morale, un travail de formation intellectuelle à travers des clubs, à travers le parti, à travers les conseils, on le verra, et parallèlement à travers la presse.
Le parti qui est le Parti Socialiste ?
Le Parti Socialiste d'abord.
Oui, oui, avant la création à Livourne. Alors,
et qui aurait dû être le Parti Communiste si les thèses de Gramsci l'avaient emporté en 1921, puisque quand on lit les articles intitulés « Le Parti Communiste », où Gramsci décrit ce que devrait être, selon lui, le PC italien, à partir d'une réflexion qu'il conduit sur Sorel. Oui. Eh bien, on voit très bien ce type d'approche. J'ajouterai que lorsque Gramsci a, en 1924, organisé la fusion entre communistes et socialistes de gauche, les maximalistes de Cerati, eh bien, cette fusion, avant d'être organisationnelle, s'est matérialisée par la création d'un journal commun, qui est devenu l'Unita, qui est encore aujourd'hui le quotidien du Parti communiste italien. Donc vous voyez cette idée d'utiliser au maximum les moyens de communication sociale a un sens politique précis. C'est lié à l'idée que se fait Gramsci du parti comme intellectuel collectif et l'idée que tout membre d'un parti est un intellectuel. Et qu'à ce titre, donc, il est chargé d'un échange, d'un dialogue permanent avec ceux qu'il représente. Et cet échange se fait notamment sur le terrain d'un enrichissement culturel réciproque. C'est l'idée qu'on retrouvera formulée dans les cahiers de prison, mais qui était déjà à la base de l'expérience des conseils, à savoir que le refus du système représentatif, et d'où l'expérience des conseils, qui est la position extrême sur ce terrain, est justifié par l'idée qu'il n'y a pas de césure entre les intellectuels et le peuple, mais que chacun à son tour est intellectuel.
C'est bien que siamo donne, paura non abbiamo, per amor de nostri figli, per amor de nostri figli. C'est bien que siamo donne, paura non abbiamo, per amor de nostri figli, in lega ci mettiamo.
Janvier 1929. Très cher Giulia, j'attends encore ta réponse à ma dernière lettre. Quand nous aurons repris une conversation régulière, bien qu'avec de longs intervalles, je t'écrirai quantité de choses sur ma vie, mes impressions, etc., etc. En attendant, il faut que tu me racontes comment Delio utilise le mécano. Cela m'intéresse beaucoup, car je n'ai jamais pu décider si le mécano qui enlève à l'enfant l'esprit d'invention qui lui est propre est le jouet moderne qu'on doit recommander. Toi, qu'en penses-tu et qu'en pense ton père? De façon générale, je pense que la culture moderne du genre américain, dont le mécano est l'expression, rend l'homme un peu sec, mécanique, bureaucrate, et crée une mentalité abstraite dans un sens différent de ce qu'on entendait au siècle dernier par « abstrait ». Il y a eu l'abstraction provoquée par une intoxication métaphysique, et il y a l'abstraction provoquée par une intoxication mathématique. Comme il doit être intéressant d'observer les réactions de ces principes pédagogiques dans le cerveau d'un jeune enfant, qui de plus est notre enfant, et à qui nous sommes liés par un sentiment qui est bien autre chose que le simple intérêt scientifique. Écris-moi longuement, ma chérie. Je t'embrasse très fort. Antonio.
Comment fonctionnaient très précisément ces conseils ouvriers de Gramsci? On en parle, bon, on en parlait beaucoup, on le cite souvent, mais le fonctionnement très précis, à part cette idée, cette aspiration à la communauté, enfin, ce qui faisait son esprit, pratiquement.
Pratiquement.
C'est un mouvement qui a démarré à Turin.
C'est un mouvement qui a démarré à Turin, qui s'est développé à partir d'institutions qui n'étaient pas des institutions révolutionnaires. Le point de départ du projet des conseils ouvriers, c'était des organismes qu'on appelait les commissions internes, que nous pourrions appeler des comités d'entreprise. Ces comités d'entreprise ou ces commissions internes avaient deux origines. Il y avait eu d'abord, avant la Première Guerre mondiale, l'apparition de certains comités qui étaient comme des comités de grève ou un peu comme nos comités de coordination actuels, mais qui n'avaient pas duré beaucoup. Puis pendant la guerre, lorsqu'il a fallu développer l'effort industriel en Italie, les entreprises ont été placées sous contrôle militaire. Ça a été la mobilisation industrielle. Les militaires ont appliqué une discipline très, très dure. en envoyant au front, par exemple, les ouvriers qui ne se soumettaient pas. Mais en même temps, ils ont développé une politique contractuelle, que l'on peut appeler schématiquement de collaboration de classe. Et pour réaliser cette politique contractuelle, on a développé des sortes d'organes de co-gestion qui étaient des commissions internes. Et ces commissions internes se sont retrouvées là à la fin de la guerre. Et l'idée de Gramsci et de ses amis de l'Ordine Nouveau, ça a été, au fond, une idée subversive, ça a été de reprendre ces commissions internes dont le noyau subsistait, qui continuaient à fonctionner après la guerre, alors que les objectifs pour lesquels elles avaient été créées avaient disparu, et de les convertir en conseils ouvriers. Là, je pense que c'est déjà une idée qui mérite d'être soulignée, et qui n'est d'ailleurs pas entièrement nouvelle. Si on pense par exemple à l'expérience des bourses du travail en France, les bourses du travail ont été créées initialement par en haut, de l'extérieur du mouvement ouvrier, de l'extérieur de la classe ouvrière, et elles ont été détournées, pour reprendre un terme qu'on emploie maintenant, au profit de cette même classe ouvrière, et avec des objectifs tout à fait autres que ceux qui étaient prévus initialement. Ensuite, qu'ils aient fonctionné, c'est certain, mais il me semble qu'ils ont surtout fonctionné dans des périodes de crise. C'est-à-dire les conseils mettent assez longtemps à se mettre en place, ils se heurtent à beaucoup de résistance. Résistance qui vient évidemment du patronat, de la Confindustria en particulier, puisque la Confindustria ne veut pas de partage des pouvoirs dans l'entreprise. Elle n'a pas compris les avantages de la négociation ou de la collaboration. Et d'autre part, les conseils se heurtent à la résistance du vieux mouvement ouvrier. Le vieux mouvement ouvrier ou des vieilles formes, c'est-à-dire le syndicat et le parti. Et alors là, je crois qu'aussi, il est intéressant de voir que les cassures ne se font pas en termes idéologiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir, certes, les réformistes défendent le vieux syndicat ou le parti, mais on peut avoir des révolutionnaires comme Serati ou Bordiga qui défendent la primauté du parti sur le conseil. Et donc, une des batailles de Gramsci sera précisément de défendre le nouveau, la nouvelle forme, et probablement à travers la nouvelle forme, un nouveau mouvement ouvrier. La guerre en Italie a eu pour effet de transformer la structure de la classe ouvrière. Vous voulez, en partir de 1915-16, les deux tiers de la classe ouvrière est mobilisée et est au front. Ça se trouve sous les drapeaux, comme le dit un rapport des industriels. Il faut donc remplacer cette classe ouvrière. On va faire appel à qui ? On va faire appel aux femmes, aux enfants et à des gens qu'on fait venir de la campagne, des montagnes du Piémont, par exemple. Et donc, à la fin de la guerre, il y a des mobilisations. Il y a aussi les démobilisés qui reviennent du front. Mais là, et qui vont retrouver leur place dans les usines. Bon, généralement, ils vont le faire en renvoyant les femmes au foyer, ce qui ne se passera pas sans difficulté, puisque les femmes ont appris qu'elles pouvaient s'épanouir en travaillant. Et le résultat, c'est qu'en 1919, la classe ouvrière italienne n'est plus cette classe ouvrière qui pouvait se reconnaître dans le Parti socialiste, dans la Confédération générale du travail et dans la division du travail que ces deux organismes représentaient, c'est-à-dire d'un côté le politique, de l'autre l'économique. Il y a tout un nouveau prolétariat qui n'est plus constitué d'ouvriers spécialisés, c'est un prolétariat d'ouvriers semi-spécialisés qui a été accoutumé pendant la guerre à faire des tâches parcellaires, au travail en miettes, pour citer une formule célèbre, et qui aspire à d'autres formes d'expression. Bon, c'est un prolétariat, on l'a remarqué, qui renacle à l'idée de se syndiquer, par exemple, pendant la guerre. Ce qui va donner lieu à une autre querelle entre les intellectuels socialistes et communistes, c'est de savoir qui participerait à l'élection des conseils. Et alors là, les tenants des vieilles institutions, des vieilles formes, vont demander que ne participent à la désignation des conseils que les syndiqués, que les gens qui ont une carte. Et une des batailles de Gramsci et aussi des anarcho-syndicalistes sera d'obtenir que les conseils soient élus par la totalité des travailleurs sans différenciation. Et ça, je crois que ce sera une grande victoire pour le projet des gens de l'Ordine Nouveau, au moins de ceux qui sont avec Gramsci. C'est-à-dire essayer de rassembler toute la classe avec peut-être une idée mythique derrière, une sorte d'illusion, peut-être même une illusion, je crois que d'ailleurs la victoire du fascisme a montré qu'il y avait une illusion dans tout cela. Mais enfin, l'illusion qu'on pouvait coaguler les segments d'une communauté dispersée.
Gramsci, vous pouvez conquérir l'État, vous pouvez modifier les lois, vous pouvez empêcher les organisations d'exister dans les formes qu'elles ont connues jusqu'ici, mais vous ne pouvez pas passer au-dessus des conditions objectives dans lesquelles vous êtes contraint d'opérer. Vous ne ferez que mettre le prolétariat dans l'obligation de rechercher de nouvelles formes d'organisation, différentes de celles employées jusqu'ici. Des formes plus souples sur le plan de l'organisation de masse. Et depuis cette tribune, nous voulons dire ceci au prolétariat et aux masses paysannes italiennes, que les forces révolutionnaires italiennes ne se laisseront pas briser, que votre rêve trouble ne pourra se réaliser.
Gramsci était de ceux qui pensaient que le Conseil devait l'emporter, en tout cas en 1919-1920, sur le parti et sur le syndicat.
Hugues Portelli.
Je dirais que par ordre de mépris croissant, le syndicat se trouve tout à fait au bas de l'échelle et que si Gramsci a toujours pensé que le parti devait jouer un rôle important, ne serait-ce que de coordination, par contre, il a toujours eu un fort mépris pour le mouvement syndical dans ses années conseillistes.
Corporatiste.
Parce que le syndicat, c'est cela. Le syndicat, c'est le corporatisme, c'est une vision tronquée de l'action révolutionnaire, alors que la révolution est le moyen de faire passer une classe de son statut subalterne à un statut dirigeant, eh bien le syndicalisme la maintient, de par sa nature même, dans son statut subalterne. Et la maintient aussi dans la vieille société. Et cela explique pourquoi Gramsci a polémiqué très durement avec le syndicat, pourquoi d'ailleurs le syndicat le lui a rendu très bien. N'oublions pas que la CGL, d'avant 1922, était dirigée par l'aile réformiste du Parti socialiste italien. L'aile droite du PSI se trouvait à la tête du syndicat, y compris de la Fédération de la métallurgie. Et donc là, il y avait un très fort désaccord. Et ce désaccord, je dirais, a atteint un point culminant lors du Bienno Rosso, lorsque les syndicats ont préféré négocier avec le patronat plutôt que de poursuivre l'affrontement qui, à Turin, avait pris la forme de l'autogestion et non pas seulement de l'occupation d'usines. Donc là-dessus, il y a eu un conflit très fort, mais un conflit qui a été si vif qu'il a entraîné une division du groupe de l'Ordine Nuovo. Et Gramsci s'est trouvé minoritaire là-dessus, car la majorité du groupe a préféré des thèses plus conciliatrices vis-à-vis du syndicat. Angelo Tasca étant le porte-parole de ces conciliateurs, je dirais y compris pour des raisons qui tenaient à sa formation, car Tasca avait été venu au socialisme par le syndicalisme, alors que Gramsci, lui, n'avait pas du tout ce type d'itinéraire.
La lingua mi cercava le parole e tutto mi diceva che non giova. Le 11:30 mi sento morire.
Scandale de me contredire, d'être avec toi, contre toi, avec toi dans mon cœur, au grand jour, contre toi au fin fond de mes veines, reniant ce que me légua mon père, en pensée, avec l'ombre d'une action. Je sais bien que j'y suis lié par la chaleur des instincts, de cette beauté qui me passionne. Fasciné par une vie prolétaire, née bien avant toi, je fais ma religion de sa joie, non de sa lutte millénaire, de sa nature, non de sa conscience. Seule la force originelle de l'homme, qui en s'accomplissant s'est enfui, lui donne l'ivresse de la nostalgie, une lueur poétique. Et je ne sais rien en dire de plus, sinon ce qui serait justesse et non sincérité, amour abstrait et non poignante sympathie. Pauvre parmi les pauvres, je m'attache, comme eux, à d'humiliantes espérances et comme eux, je lutte pour vivre jour après jour. Mais en ma désolante condition de déshérité, je possède, moi, la plus exaltante des possessions bourgeoises, le bien le plus absolu. Mais si je possède l'histoire, elle me possède elle aussi. Je vis dans sa lumière. Mais à quoi bon la lumière ?
Novembre 1936. Cher Delio, tu peux m'écrire sur Pushkin quand tu veux. Il vaut mieux cependant que tu y penses bien, de façon à me donner une bonne preuve de ton aptitude à penser, à raisonner et à critiquer. C'est-à-dire à distinguer le vrai du faux, le certain du possible et du vraisemblable. Toutefois, ne t'inquiète pas, je connais ton âge, ton niveau, et je saurai donc juger objectivement, bien que je t'aime beaucoup et que dans ces conditions il soit plutôt difficile d'être objectif. Ce ne sera pas facile de trouver les livres sur Pushkin et Gogol, d'ailleurs qu'en ferais-tu ? Ceux-là ont vieilli à présent, alors qu'il existe maintenant toute une littérature récente sur ces deux écrivains, une littérature critique élaborée à partir des découvertes faites dans les archives ouvertes à la jeune et vaillante école philologique soviétique. Je suis très heureux que tu ailles bien et que tu ne te fatigues pas quand tu étudies. Cher Delio, je t'embrasse et je te charge d'embrasser très fort maman de ma part. Papa.
À partir de 1919, il a eu la chance de...
Robert Paris.
De faire l'ordine nuovo avec Tasca, Terracini, Togliatti. Et la chance surtout d'avoir un mouvement ouvrier comme le mouvement ouvrier turinois. Parce que sinon, il n'aurait été peut-être qu'un professeur de philosophie ou un linguiste.
Moi, il y a ça ensuite comme étape importante, il y a quand même 21, quoi. Ça...
Oui.
Non, ça, vous n'aimez pas ce Gramsci-là.
Il y a un Gramsci qui a changé, il y a un Gramsci que je n'aime pas beaucoup, que j'ai découvert par la suite, qui est le Gramsci qui arrive à la tête du Parti communiste italien et qui est chargé de bolcheviser le Parti communiste italien. C'est-à-dire de le prendre en main et de l'aligner sur les positions de l'Internationale communiste. Bon, c'est le Gramsci qui attaque Bordiga perpétuellement, et c'est le Gramsci qui paraît tourner le dos à ses années de jeunesse. C'est le Gramsci qui semble faire le deuil complet de la période conseilliste, et qui mise tout sur le parti. Mais en fait, le Parti communiste n'est pas constitué par Gramsci. Et le Parti communiste, d'abord, naît après l'occupation, l'échec de l'occupation des usines. C'est-à-dire que pour des gens comme Gramsci, ça signifie qu'il faut renoncer à la nouvelle forme, au nouveau mouvement ouvrier représenté par les conseils, et retourner à la vieille forme qui est le parti. Il faut se résigner au parti. Bon, Gramsci va le faire, mais il va le faire derrière un homme qui est Bordiga, qui est à l'époque un personnage qui a un poids international énorme, alors que Gramsci, à l'échelle internationale, est à peu près un inconnu.
Que Gramsci va retrouver en prison ?
Oui, ensuite. Mais entre-temps, Gramsci, pour revenir à la formation du Parti communiste, il faut penser que d'abord, étant donné ses positions de 1914, Gramsci est très mal accepté. Au congrès de fondation du Parti communiste, il y a des protestations contre lui. Enfin, on lui reproche, on l'accuse d'avoir été interventionniste. Bon, de même, on peut remarquer qu'au congrès du Parti communiste ne participe pas Togliatti, par exemple, parce qu'il a été volontaire dans la Croix-Rouge, mais volontaire pendant la guerre, ce qui est un péché pour le mouvement ouvrier italien. Et donc Gramsci va rentrer dans ce Parti communiste, il va avoir la charge du quotidien du parti, qui prendra aussi le titre de l'Ordine Nuovo, Mais pendant 2 ans, au moins, il va être tout à fait sur la ligne de Bordiga, des principaux dirigeants du parti. Alors va ensuite intervenir une période qui est assez mal connue, qui est la période où il va à l'Union soviétique. Parce qu'en 1922, on l'envoie travailler à Moscou auprès du comité exécutif de l'Internationale communiste. Et alors là, à Moscou, d'abord, il sera malade. Pour la première fois, on va s'occuper de le soigner. Il fera un séjour en sanatorium. Il va rencontrer une femme qu'il va épouser. Enfin, ça, c'est quand même un événement important dans la vie de ce garçon que la nature n'avait pas beaucoup gâté. Enfin, vous le savez, il était bossu, enfin, il n'avait pas eu jusque-là une vie sentimentale, enfin, sauf un cas que je n'évoquerai pas ici, très très riche. Donc il se marie et en plus il fait l'objet de tout un travail de persuasion de la part des grands dirigeants de l'Internationale communiste, qui commencent à le persuader qu'il doit remplacer Bordiga à la tête du Parti communiste. Alors là, il va mettre assez longtemps à se laisser convaincre. Et ensuite, une fois convaincu de la nécessité de remplacer Bordiga, c'est-à-dire de recentrer le parti communiste italien qui était trop gauchiste, il va à son tour entreprendre d'en convaincre ses camarades comme Togliatti, Terracini, Leonetti, tout le vieux groupe de l'Ordine Nuovo. Et ça va faire l'objet d'une correspondance extrêmement intéressante qu'il a envoyée de Moscou, puis de Vienne, où il a été transféré ensuite. Donc là, c'est une période très intéressante. Et puis ensuite, il rentre en Italie pour fonder un journal qui prend le titre emblématique de l'Unita. Il s'agit là aussi d'unifier la classe ouvrière. Vous voyez, on retrouve quelque chose du vieux projet, du projet qui était déjà dans les conseils, l'idée d'unité, mais cette unité désigne déjà d'autres personnages. Il s'agit par exemple de l'unité entre les ouvriers et les paysans, de l'unité entre le nord et le sud de l'Italie. C'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement complet du champ et des perspectives. Il est élu député également. Il entreprend, comme je vous l'ai dit, la bolchevisation du Parti communiste. Et puis, 2 ans après, il est emprisonné.
Gramsci, nous demandons pour quelle raison, depuis plusieurs mois, les carabiniers arrêtent nos camarades chaque fois qu'ils les trouvent réunis à plus de 3, et ce, sans que le Parti communiste ait été déclaré association délinquante.
Mussolini, nous faisons ce que vous faites en Russie.
Gramsci, en Russie, il y a des lois qui sont respectées. Vous avez vos lois.
Mussolini, vous lancez des coups de filet formidables, et vous avez bien raison.
Gramsci, en réalité, l'appareil policier de l'État considère déjà le Parti communiste comme une organisation secrète.
Mussolini, ce n'est pas vrai.
Gramsci, en attendant, on arrête uniquement en tant que communiste, et sans accusation aucune, quiconque est trouvé dans une réunion de 3 personnes, et on le jette immédiatement en prison.
Mussolini, mais ils sont relâchés très rapidement. Combien sont en prison? Nous les pêchons simplement pour les connaître.
Gramsci, c'est une forme de persécution systématique, une justification par anticipation de l'application de la nouvelle loi. Le fascisme adopte les mêmes principes que le gouvernement Giolitti. Vous procédez de la même manière que les officiants giolittiens dans le Midi, qui arrêtent les électeurs de l'opposition pour les connaître.
Mussolini, ça ne s'est passé qu'une seule fois. Vous ne connaissez pas les régions méridionales.
Gramsci, je suis méridional.
La réflexion des cahiers de prison ne naît pas en 1927, avec l'arrestation. Elle est déjà très nettement articulée dès les années 20. Et disons que sur une série de questions, on trouve des textes importants de Gramsci qui constituent déjà un résumé des thèmes qui seront développés dans les cahiers. Je pense par exemple aux fameuses notes sur la question méridionale de 1926, qui ont été écrites avant l'arrestation de Gramsci, et dans la note dans lesquelles on retrouve développée toute la réflexion du dirigeant communiste italien, par exemple sur les intellectuels, sur les problèmes des rapports avec la paysannerie, sur le rôle de l'Église, sur la révolution bourgeoise manquée en Italie, etc. Je dois dire que là, si on veut avoir une position lucide sur les cahiers de prison, sur l'œuvre politique de Gramsci, on se heurte à un des problèmes de la pensée de Gramsci, qui est un des problèmes auxquels se trouve confrontée toute la Troisième Internationale, y compris sous l'aile la plus novatrice, qui est celle du communisme italien de Turin. À savoir que il reste un obstacle, malgré tout, notamment à partir de 21 pour Gramsci, c'est la conception léniniste du parti. Parce que dans la conception des cahiers de prison, ou dans celle du parti qui était défendue par Gramsci avant 1921, qui était une conception très proche de celle de Rosa Luxembourg, à savoir que le parti ne devait pas jouer de rôle dirigeant, mais devait être à l'écoute de la société, et donc l'accompagner, mais ne pas être une avant-garde. Et donc entre cette conception qui est celle du parti d'avant 21 ou des conseils d'un côté, et puis la conception qui sera celle du parti léniniste à partir du moment où le modèle bolchevique deviendra le modèle obligatoire pour tous les PC, eh bien évidemment il y a une différence notoire, et notamment la question qui est posée, c'est celle de savoir quel est le statut du parti dans ses rapports aux masses, comme on disait à l'époque, dans ses rapports à la classe ouvrière. Et la question qui est posée, évidemment, c'est celle de la dialectique entre les intellectuels, y compris militants, dirigeants, etc., et les masses. Et là, on doit reconnaître qu'à partir de 1924, c'est-à-dire lorsque Gramsci est chargé de la bolchevisation du PC d'Italie, comme on disait à l'époque, et surtout dans les cahiers de prison, on se trouve face à un certain type de ralliement à la conception léniniste, puisque Gramsci ira même jusqu'à reprendre l'image de l'armée, en disant que la classe ouvrière et son parti forment une sorte d'armée, avec une distinction entre l'état-major, les officiers, les hommes de troupes, etc., qui évidemment est très loin de la conception du Conseil. Gramsci dira, surtout dans sa seconde lettre, que le problème aujourd'hui, en 1926, ce n'est pas de montrer que la classe ouvrière est capable de conquérir le pouvoir, puisque elle l'a fait. Le problème qui se pose à elle, c'est le problème qui se pose plutôt aux dirigeants communistes, c'est de montrer que non seulement elle a conquis le pouvoir, mais qu'elle est capable de le garder, et donc d'être une classe dirigeante. Et le fait que le groupe dirigeant communiste soviétique reste uni au pouvoir et qu'il gouverne de façon collégiale, sera un élément de réponse positive dans cette démonstration. Alors voilà, c'est un exemple assez intéressant, parce qu'il montre que pour Gramsci, le rapport qui se fait entre la classe et le parti, c'est un rapport aussi d'ordre symbolique. Pourquoi ? Bien parce que Gramsci l'avait très bien dit dans les notes de 1926 sur la question méridionale auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Il avait expliqué à la fin de ses notes, que le gros problème qui se pose à la classe ouvrière, c'est qu'à la différence de la bourgeoisie, eh bien, lorsqu'elle viendrait à prendre le pouvoir, elle n'aurait pas un personnel politique compétent suffisamment étoffé pour être elle-même immédiatement classe dirigeante. Et donc il y aurait une longue période de transition où des intellectuels ralliés à elle gouverneraient en quelque sorte par procuration pour la classe ouvrière. Et ce serait donc seulement sur une longue période que se ferait ce processus donc de transmutation sociale qui verrait des intellectuels issus véritablement de la classe ouvrière accéder au pouvoir et permettre à cette classe ouvrière d'être véritablement classe dirigeante. Et le problème qui est posé en 1926, c'est qu'on se trouve en plein dans la situation visée par Gramsci dans les notes sur la question méridionale, à savoir que le Parti communiste soviétique est un parti qui gouverne au nom de la classe ouvrière, mais qui, bien évidemment, n'est pas encore loin de là le parti de la classe ouvrière, ne serait-ce qu'au sens sociologique du terme. Et pour que cette transition n'aboutisse pas à un échec, puisque là est la question fondamentale qui est posée, eh bien il faut que ce parti continue à rester uni, car son unité est un gage de succès de la transition, donc d'un gouvernement au nom de la classe ouvrière à un gouvernement de la classe ouvrière. Alors voilà la question qui est posée, et qui est la question posée dans les cahiers de prison, qui est la question centrale du parti Prince Moderne, du parti intellectuel collectif. Bien entendu, chacun sait que c'est un des points faibles de la conception marxiste, de toute la théorie marxiste de la Révolution, car la question de savoir comment une classe dominée sur le plan socioculturel peut devenir classe dirigeante, parce que son parti accède au pouvoir, c'est le problème théorique le plus sérieux de la théorie marxiste. Mais en même temps, pas mal de ceux qui ont été critiques vis-à-vis des cahiers de prison ont noté que, par exemple, dans la réflexion des cahiers de prison sur Machiavel et sur le prince moderne, eh bien, il y a des ambiguïtés qui demeurent. Parce que le prince moderne que propose Gramsci, c'est un parti, et donc c'est un nouvel État, la préfiguration d'un nouvel État, qui doit à la fois accomplir les fonctions qui sont celles de la révolution ouvrière, mais aussi celles des révolutions bourgeoises qui n'ont pas eu lieu en Italie. C'est-à-dire la révolution protestante, entre guillemets, et puis les révolutions libérales du XIXe siècle. Donc le parti Prince Moderne, c'est à la fois les réformes protestantes, la révolution jacobine et la révolution d'octobre. Bien. Ce qui veut dire que la fonction historique qui est réclamée au parti communiste italien est une fonction qui lui demande une capacité de médiation considérable et donc un risque de prise de distance par rapport au sujet historique qu'il représente, qui risque d'aboutir à plus qu'une prise de distance, mais à la limite une indépendance totale. Et c'est une des grandes difficultés de la réflexion sur Machiavel. Mais en même temps, d'un autre côté, il faut bien voir que c'est totalement lié à la vision historiciste qui est celle du marxisme de Gramsci, où le marxisme, dans sa version italienne, doit être le point de synthèse non seulement d'une philosophie politique totalement originale, mais également de ce qu'il y a de meilleur dans les philosophies antérieures, y compris les religions. Et d'où le fait que, par exemple, dans les cahiers de prison, un des interlocuteurs du marxisme, tel que Gramsci le définit, c'est le catholicisme. Et puis, d'autre part, donc, en termes d'organisation, bien le parti dont, finalement, la référence va de César Borgia jusqu'à Cavour, en passant par Giolitti, etc.
Mars 1929. Très chère Tania, comme je te l'ai déjà écrit plusieurs fois, il ne faut plus qu'on m'envoie de livres, tant que je ne les aurais pas demandés, pour de nombreuses raisons. Premièrement, parce que j'ai déjà de quoi lire pour un bout de temps. Deuxièmement, plus important, parce que ce n'est que si c'est moi qui les demande que les livres rentrent dans le plan intellectuel que je veux moi-même construire. J'ai décidé de m'occuper en priorité et de prendre des notes sur ces trois sujets. Premièrement, l'histoire italienne au XIXe siècle en m'intéressant spécialement à la formation et au développement des groupes intellectuels. Deuxièmement, la théorie de l'histoire et de l'historiographie. Troisièmement, l'américanisme et le fordisme. De Ford, j'ai les deux livres publiés en français, Ma vie, Aujourd'hui et demain, et quelques titres, Siegfried et Lucien Romier. J'aimerais avoir, s'ils ont été traduits en français, quelques romans de Sinclair Lévis, en particulier Elmer Gantry. Sur la théorie de l'histoire, j'aimerais avoir un livre français sorti récemment. Boucarine, Théorie du matérialisme historique, édition sociale, 3 rue Valette, Paris 5e. Et Les œuvres philosophiques de Marx, publiées par l'éditeur Alfred Coste, Paris. Tome 1er, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Tome 2, Critique de la critique critique contre Bruno Bauer et consorts. Les livres de Benedetto Croce, les plus importants sur la question, je les ai déjà. J'ai vu qu'est sorti récemment un livre de Enrico Ruta, Politique et idéologie, mais je ne connais pas l'éditeur cité. Peut-être est-ce la Terza à Paris. Sur le premier sujet, j'ai déjà quelque chose. Je me souviens qu'à Rome, je dois avoir aussi sur le Risorgimento un livre de Piero Gobetti, La Révolution libérale, et un livre de Giuseppe Presolini, La culture italienne. J'en ai terminé. Très chère Tania, je t'embrasse affectueusement. Antonio. Post-scriptum, je voudrais avoir les discours du chef du gouvernement de 1927 à 1928 qui sont publiés par la maison d'édition Alpes de Milan et, aussitôt qu'il sera sorti, l'annuaire statistique italien 1929, publié par l'Institut central de statistique de l'État.
Chez lui, c'était tout était politique, ça c'est une chose importante, et la culture, par l'intermédiaire des superstructures, faisait partie également.
Paolo Fulchignoni.
Et alors, c'était important de connaître cette culture pour pouvoir la modifier. Il y avait deux possibilités, si vous voulez. Avec le marxisme, on a fait une distinction entre la structure économique et les superstructures. Et puis, il y avait deux possibilités qui découlaient de ces analyses par la suite. L'une consistait à dire l'économique ou la structure définit la superstructure et donc définit la culture, définit l'idéologie, etc., etc. Ou bien, à l'inverse, ce sont les idées, les idéologies, etc., qui peuvent définir ces structures. Gramsci, je crois, ça a été une contribution extrêmement importante, a compris que la première simplification, qui était un économisme stéréotypé et immobile, entraînait une impasse. D'autre part, il repoussait également l'idéalisme. Ce qui l'intéressait, c'était le rapport, évidemment, entre les deux éléments et la dialectique de ces éléments. Et peut-être parce qu'il y a eu davantage de penseurs ou d'économistes qui se sont intéressés au sens structure déterminant la superstructure, peut-être que lui a davantage insisté sur l'autre versant de la pièce ou l'autre mécanisme qui est l'influence que la superstructure ou la culture peuvent avoir sur le fonctionnement social et sur l'économie en général. Et c'est pour ça que, par exemple, on trouve des articles dans les cahiers qui se rattachent effectivement à la culture dans le sens large, mais qui peuvent sembler complètement étrangers, si vous voulez, à la pensée de ce qu'on attend d'un politicien. Par exemple, il y a énormément d'articles sur la religion, mais ce n'est pas une étude sur la religion comme ça, par pure curiosité intellectuelle. C'est parce que, dans ce que l'Église, l'histoire de l'Église a été au cours des siècles, Gramsci veut reprendre les éléments qui sont encore aujourd'hui intéressants pour lui et importants pour un mouvement révolutionnaire. Par exemple, il y a un article où il parle de ce que les jésuites essayaient de faire en Inde, des problèmes que les jésuites avaient, n'arrivant pas à faire assez de prosélytes, donc de gens qui n'arrivaient pas à convertir les Indiens à la religion catholique. Et il analyse ce que les jésuites en disent. C'est-à-dire, ils disent le mécanisme qu'il faudrait arriver à obtenir en Inde serait de convaincre un certain nombre d'Indiens qui ont... Aujourd'hui, on dirait qu'ils sont des leaders d'opinion, mais évidemment, ce n'est pas l'expression qu'ils utilisent, pour que ces mêmes gens puissent avoir à leur tour une influence sur la masse et le peuple. Et il ajoute, on voit que les jésuites de ce temps-là avaient compris certains mécanismes d'influence sociale bien mieux que certains révisionnistes actuels, etc., etc.
Ce qui explique que, justement, il n'était pas d'un anticléricalisme étroit, qu'il a lutté contre l'anticléricalisme borné.
Dans chaque domaine, ce qui l'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a de vrai ou d'intéressant dans quelque chose et qu'il peut utiliser pour le remettre dans le courant de choses qu'il veut construire. Donc, toujours à propos de ce paragraphe où il parle des jésuites et de l'Inde... Les jésuites se posent le problème suivant. Le catholicisme en Inde n'arrive pas à faire de prosélytes, et là aussi, en nombre limité, que dans des castes inférieures. Les intellectuels indiens sont réfractaires à la propagande, et le pape a dit qu'il faut d'autant plus travailler parmi eux que la conversion des masses populaires est conditionnée par la conversion des noyaux importants d'intellectuels. Bon, c'est une idée assez claire, et il ajoute entre parenthèses, le pape connaît mieux le mécanisme de réforme culturelle des masses populaires et paysannes que bien des éléments de la gauche laïque. Il sait qu'une grande masse ne peut se convertir de façon moléculaire. Il faut, pour accélérer le processus, conquérir des dirigeants naturels des grandes masses, à savoir les intellectuels, ou former des groupes d'intellectuels d'un type nouveau. D'où la création d'évêques indigènes, etc., etc. Voilà un exemple typique où, à partir d'une étude d'un élément précis, c'est-à-dire la religion, ou ce que les jésuites ont essayé de faire en Inde, Gramsci ramène ça à une notion beaucoup plus générale qui l'intéresse, c'est-à-dire quel est, par exemple, le rôle des intellectuels dans un pays et comment arriver à faire un prosélytisme révolutionnaire. Par quel processus faut-il passer ?
Par quels intellectuels faut-il passer aussi ?
Voilà.
Hein, parce qu'il y a... Et là, il assimile les évêques indigènes aux intellectuels ?
Je ne sais pas s'il va jusque-là, mais il dit en tout cas que le pape a bien compris quel est le mécanisme, qu'il faut d'abord convaincre certains éléments qui sont des éléments traditionnellement clés de relation entre, disons, le pouvoir et les masses paysannes pour arriver à faire changer les mentalités ou les convictions.
C'était aussi la conviction de Gramsci, d'où sa rupture avec certains membres du PC, avec une extrémité du PC.
Absolument.
Hein.
Oui.
Christine Bussy-Glucksmann.
Au fond, le peuple n'est pas une donnée pour Gramsci. Et un sens commun s'élabore par un mouvement pédagogique, un mouvement critique, un mouvement culturel, la création de nouvelles formes de vie. Et c'est pourquoi une idéologie n'est pas une interprétation rationaliste ou illusoire du réel, mais une idéologie naît qu'à être que si elle est organique, comme dit Gramsci, c'est-à-dire si elle opère cette fusion du national et du populaire, de la culture populaire et d'une culture intellectuelle savante et même cosmopolite.
« 27 juin 1927. Très chère maman, je voudrais que tu m'envoies, tu sais quoi, le sermon de frère Antiogu aux gens de Masoudas. On peut le trouver à Oristano, car Patricio Carta l'avait récemment réédité dans sa fameuse imprimerie. Puisque j'ai tellement de temps à perdre, je voudrais composer dans le même style un poème où entreraient tous les personnages illustres que j'ai connus lorsque j'étais enfant. Oncle Raymond Dugana, Ganosu et Ganola, Maître Andriolu et Oncle Milanu, Oncle Michele Boboy, Iscorza, l'Oncle par Alliance, Pipetto, Coroncu, Santu Jacuzzi Ligertari, etc., etc. Je m'amuserai beaucoup. Et puis, je réciterai mon poème aux enfants dans quelques années. Je crois que maintenant le monde s'est civilisé et qu'on ne voit plus aujourd'hui les scènes que nous avons vues, nous, quand nous étions enfants. Te rappelles-tu cette mendiante de Mogoro qui nous avait promis de venir nous chercher avec deux chevaux blancs et deux chevaux noirs pour aller découvrir le trésor défendu par la mouche maléfique? Et te souviens-tu que nous l'avons attendue pendant des mois et des mois? Maintenant, les enfants ne croient plus à ces histoires, et c'est pourquoi il est bon de les chanter. Si nous nous trouvions ensemble, Mario et moi, nous pourrions refaire des joutes poétiques. Je me suis souvenu de l'oncle par alliance, Iscorza. Vit-il encore? Te souviens-tu comme il nous faisait rire avec son cheval qui avait une queue seulement le dimanche? Tu vois combien de choses je me rappelle? Je parie que j'ai réussi à te faire rire. Salue affectueusement tout le monde pour moi. Je t'embrasse tendrement. Nino.
Est-ce qu'il y a d'autres thèmes des cahiers sur lesquels vous voulez revenir ?
Oui. Par exemple, encore un texte sur la religion. Pourtant, Dieu sait si ce n'est pas quelque chose de prépondérant dans son livre. À un moment, il parle du prédicateur catholique et il dit « La contre-réforme a mis au point un type de prédicateur dont on trouve la description dans le « De predicatore verbi dei » qui est paru à Paris en 1585. Et il énonce quelques principes. Premièrement, le sermon doit être en accord avec l'auditoire. Il sera donc différent pour un public de paysans et de citadins, pour des nobles et des plébéiens. Deuxièmement, le prédicateur ne doit pas se laisser aller à une éloquence trop voyante, ni à une recherche excessive dans la forme. Troisièmement, il ne doit pas aborder des problèmes trop subtils, ni faire étalage de doctrine. Quatrièmement, il ne doit pas faire référence aux arguments des hérétiques devant une assemblée non avertie, etc. etc. Là encore, l'intérêt que Gramsci peut porter à un ouvrage écrit en 1585 sur le prédicateur catholique, évidemment, n'est pas un problème strictement religieux. C'est évident qu'il voit là-dedans des choses qui sont extrêmement importantes pour, je ne sais pas, le journaliste, le militant politique, des personnages qui lui tiennent à cœur et qui sont tout à fait au centre de ses préoccupations.
Le président. Vous êtes accusé de conspiration, d'instigation à la guerre civile, d'incitation à la haine de classe et de vous être livré à l'apologie du crime. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?
Gramsci, je confirme les déclarations que j'ai faites précédemment à la police. J'ai été arrêté, bien qu'étant député en exercice. Je suis communiste. Mon activité politique est connue. Elle a été explicitée publiquement, tant par ma qualité de député que par mes fonctions de rédacteur à l'UNITA. Je ne me suis livré à aucune activité clandestine d'aucune sorte, car cela m'aurait été impossible, même si j'avais voulu le faire. Depuis des années, 6 policiers sont près de moi en permanence. Leur rôle déclaré était de m'accompagner hors de chez moi ou de rester chez moi. Ainsi, on ne m'a jamais laissé seul. Et sous prétexte de protection, on m'a, en fait, placé sous une surveillance qui devient aujourd'hui ma meilleure défense. Je demande que soit entendu comme témoin le préfet et le questeur de Turin, afin qu'il fasse une déposition à ce propos. Si par ailleurs le fait d'être communiste implique une responsabilité, je l'accepte.
Le président. Dans les documents saisis, il est question de guerre et de prise du pouvoir par le prolétariat. Quelle veut être la signification de ces textes ?
Gramsci. Je pense, monsieur le général, que tôt ou tard, toutes les dictatures de type militaire finissent par être renversées par la guerre. Dans ce cas, il me semble évident qu'il appartient au prolétariat de se substituer à la classe dirigeante en prenant la direction du pays afin de relever la nation. Vous êtes en train de conduire l'Italie à la ruine et c'est à nous, communistes, qu'il reviendra de la sauver.
N'oublions pas qu'en 1914, le premier écrit de Gramsci est un article qui a paru... Oui. Pour défendre, sinon, non pas justifier, mais défendre l'attitude de Mussolini face au problème de la guerre et donc de l'interventionnisme éventuel. N'oublions pas que Mussolini était le leader de la gauche socialiste en 1914 et que pour tous les socialistes de gauche, et notamment les jeunes, je pense à... Et Gramsci n'était pas le seul dans ce cas. Nenni et Togliatti ont été beaucoup plus loin que lui dans leur soutien initial à Mussolini. Donc Mussolini a été un personnage qui a servi de référence à l'origine. Et le fait qu'il ait basculé dans le nationalisme puis le fascisme a été un élément essentiel du désarroi de la gauche socialiste italienne pendant la Première Guerre mondiale et à la fin de celle-ci. Alors, la question du fascisme, bon, c'est lié dans les années 20-21, de la part de Gramsci, à une réflexion sur la petite bourgeoisie. C'est vrai, mais dès le départ aussi sur la lutte de classe qui devient dramatique en Italie au moment de du Biennio Rosso, des grandes grèves de 1920. N'oublions pas que le premier grand texte politique de Gramsci, c'est un texte qu'il écrit au nom de la section socialiste de Turin et qui sera approuvé par Lénine. C'est un texte qui s'appelle « Pour une rénovation du Parti socialiste italien ». Et qui se termine en disant cet affrontement donc se terminera soit par une victoire éclatante du mouvement ouvrier italien et donc par l'amorce de la révolution, soit par une défaite dramatique qui entraînera une réaction de la part des classes dirigeantes qui sera d'une extrême férocité. Et donc c'était le premier diagnostic sur la révolution manquée, et sur le fait que cette révolution manquée allait entraîner immédiatement en ressac une réaction extrêmement dure des classes dirigeantes. Donc cela, c'est le premier point. Le second point, ce sera l'analyse du phénomène fasciste, c'est le fascisme, le peuple des singes, c'est la réflexion sur la petite bourgeoisie, et sur la bourgeoisie italienne aussi, parce que dans cette réflexion, et je renvoie là un autre article, un article que Gramsci a écrit en 1924 pour la mort de Lénine, qui est un de ses plus beaux articles, qui s'appelle « Cap au chef ». Et dans cet article, Gramsci fait un portrait du chef révolutionnaire et avec en contrepoint le portrait du chef fasciste, en montrant ce qu'est un chef charismatique pour un mouvement révolutionnaire et ce qu'est un chef charismatique pour un mouvement contre-révolutionnaire, et en expliquant que finalement, un des ressorts du succès de Mussolini, c'est qu'il confortait ceux à qui il avait fait peur quelques années plus tôt, c'est-à-dire celui qui avait fait trembler de peur le bourgeois en Italie en 1912-1913, et qui avait déjà créé un rapport trouble avec ce milieu dans les années 1912-1913, était celui que ces mêmes bourgeois se choisissaient comme chef en 1922. Donc, le deuxième élément de la réflexion, c'est celui-là, c'est la réflexion sur le fascisme comme mouvement social, comme mouvement politique aussi, le phénomène du chef fasciste, du chef charismatique de droite. Et puis, troisièmement, une réflexion sur l'antifascisme aussi. N'oublions pas le fait que Gramsci s'est trouvé complètement isolé lorsqu'il apprenait l'unité face au fascisme, lorsqu'il apprenait le soutien aux mouvements spontanés qui se sont créés dans la population pour lutter contre le fascisme, les fameux Arditi del Popolo, qui ont été vite laminés. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils n'ont pas eu de relais de soutien politique. Et là, donc, on avait déjà les trois éléments clés de l'analyse du fascisme et du contexte dans lequel il l'a emporté. J'en rajouterai un quatrième, qui est très important pour comprendre les clés de prison, c'est l'attitude de l'Église. Gramsci souligne qu'un des points clés de la victoire de Mussolini, c'est le compromis passé entre l'Église et le fascisme dans le but commun de se débarrasser des forces laïques, qu'elles soient révolutionnaires ou libérales. Donc, comment résoudre le problème de l'Église et le problème de la religion ? Et, entre parenthèses, ce sera un des points qui ne sera pas tellement repris après-guerre par le PC italien, car sur ce terrain-là, Gramsci avait des positions très en flèche. Le thème qu'on retrouve dans les cahiers de prison, formulé sous le vocable emprunté à Renan via Sorel de la réforme intellectuelle et morale, c'est un thème qu'on pourrait transposer aujourd'hui de façon plus moderne sous le vocable de révolution culturelle.
Brigadier, un moment. Brigadier, vagina me salva à maman.
Non, camine, camine.
Brigadier, l'ultima volta.
Camine, camine.
Brigadier, l'ultima volta.
Andiamo.
Oi, ma, io me ne vado, ti raccomando a chi, pure da che lei sa fare qualcosa, non da rete, ci sta a mani di, è stata essa che mi ha fatto passare stuolo, ci sta a mani di, io me ne vado.
Nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner
pendant 20 ans.
Aïe, que mon
Nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans. Nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans. Nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans. Nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans.
25 janvier 1932. Très chère Tania, tu n'as pas bien compris encore quelle peut être la psychologie véritable d'un détenu. Ce qui fait le plus souffrir, c'est l'état d'incertitude, l'indétermination de ce qui doit vous arriver de la part des gens qui ne sont pas les gardiens de la prison, parce qu'ils s'ajoutent, mais avec une portée bien différente, à l'état d'incertitude et d'indétermination qui est le propre de la vie en prison. On s'habitue, après beaucoup de souffrances et après beaucoup d'efforts d'inhibition, à être un objet sans volonté et sans subjectivité, face à la machine administrative qui à tout moment peut vous expédier à droite ou à gauche, vous faire changer des habitudes enracinées, etc., etc. Et si à cette machine et à ses sursauts irrationnels s'ajoute l'activité irrationnelle et chaotique de ses proches, le prisonnier en arrive à se sentir écrasé et broyé. Il ne faut jamais faire de projets et de promesses vagues et fumeuses. Il ne faut pas limer les nerfs. Autrement, il m'arrive à moi-même, qui suis pourtant très endurant et capable d'une grande inhibition, de me raidir dans l'affirmation de ma propre volonté et de la faire valoir, même si ce n'est pas la peine, pour me prouver à moi-même que je suis encore vivant.
Je ne lis plus les cahiers de prison pour savoir ce que Gramsci pensait de la philosophie marxiste. ou ce qu'il pouvait penser en termes de politique. Maintenant, ce qui m'intéresse dans les cahiers de prison, c'est d'une part un certain aspect autobiographique. C'est que très souvent, lorsque Gramsci nous parle, par exemple, des souvenirs de prison de Pellico, d'Andriane, de gens comme ça, on sent qu'il nous parle de lui. Là, je crois que c'est très important. Il y a par exemple un texte, je crois que c'est dans le cahier 3, où il commente un passage sur l'Inquisition et où il s'attarde sur l'expression « rendre la vie impossible ». Bon, nous savons que c'est là une formule que Mussolini a employée pour signifier, sinon qu'il fallait liquider un opposant, du moins, effectivement, lui rendre la vie impossible. Nous avons par exemple le texte d'un télégramme qui a été envoyé par Mussolini au préfet de Turin à propos de Gobetti pour lui dire qu'il faut rendre la vie impossible à ce jeune homme. Le résultat, c'est que le jeune homme a fini par mourir des suites des blessures qui lui avaient été infligées par les fascistes. Donc lorsque Gramsci se polarise sur un texte de ce genre qu'il trouve au hasard d'une lecture, nous savons qu'il nous parle de lui. C'est-à-dire en 1926, il va être emprisonné. En 1926, il y a un attentat qui est une provocation pour monter de toutes pièces contre Mussolini à Bologne. Et Mussolini en profite pour faire interdire les partis politiques et arrêter, entre autres, les communistes et certains socialistes, les envoyer en prison pour 10 ans ou 20 ans. Et Gramsci se trouve parmi cela. Il est arrêté en novembre 1926 et il va se retrouver en prison, pas jusqu'à sa mort, mais presque. Parce qu'un peu avant sa mort, vous le savez, à partir de 1935, il sera en liberté provisoire, surveillé dans une clinique. Mais il va passer quand même plusieurs années dans diverses prisons, surtout dans une prison d'Italie méridionale, un endroit qui s'appelle Turi, où il n'aura rien d'autre à faire qu'à écrire ses cahiers de prison, dans des conditions souvent difficiles, puisque on l'empêche de dormir, il est malade, on le prive parfois de certaines revues, de certains livres, on lui interdit même parfois des livres de fascistes. Mais il fait faire ce travail patient, parfois maniaque, la rédaction des cahiers de prison.
Très cher Delio, je me sens un peu fatigué et je ne peux pas t'écrire longuement. Toi, écris-moi toujours et sur tout ce qui t'intéresse à l'école. Je pense que tu aimes l'histoire, comme moi quand j'avais ton âge, parce que cela concerne les hommes qui vivent. Et tout ce qui concerne les hommes, le plus d'hommes possible, tous les hommes du monde, dans la mesure où ils s'unissent en société et travaillent et luttent et s'améliorent, ne peut pas ne pas te plaire plus que toute autre chose. Mais est-ce bien ainsi? Je t'embrasse, Antonio.
Je m'en vais. Je te quitte. Dans le soir, qui malgré sa tristesse tombe si doux pour nous, vivants, dans la clarté cendrée qui se raccroche au quartier dans la pénombre. Et le travail, le grandit, en évide les alentours et plus loin le rallume d'une vie furieuse où le rauque ferraillement des tramways, les cris humains dialectaux forment un concert trouble et absolu. Et on sent bien que pour ces êtres vivants au loin qui crient, qui rient, dans leurs véhicules, dans leurs mornes îlots de maisons où s'évanouit le don perfide et expansif de l'existence, cette vie n'est qu'un frisson.
Persi l'ingegno che la morte m'è venuta a visitare e leva le gambe tue da questo regno. Persi le forze mie, persi l'ingegno.
Gramsci est enterré dans une petite tombe du cimetière des Anglais, entre la porte Saint-Paul et le Testaccio, non loin de la tombe de Shelley. Sur le cip, on ne lit qu'une inscription. Les cendres de Gramsci, suivies des dates 1891-1937. Pier Paolo Pasolini.
une œuvre. Antonio Gramsci, penseur de l'échec. Par Francesca Piolo et Jean-Claude Loiseau. Avec la participation de Christine Bussy-Glucksmann, Paolo Fulchignoni, Robert Paris, Hugues Portelli. Texte, Gramsci, Lettres de prison, édition Gallimard, Cahiers de prison, édition Gallimard. Giuseppe Fiori, La vie de Antonio Gramsci, aux éditions Fayard. Pier Paolo Pasolini, Les cendres de Gramsci, poésie Gallimard. Lu par Jean-Louis Jacopin, Jean Bollery, Armel Parentoen. Enregistrement et mixage, Pierre Comon, Jacques Gouillon, Christian Prévost, Gérard Servet, réalisation Jean-Claude Loiseau.
Cela m'a fait mal pendant très longtemps. Pendant très longtemps, mes rapports avec les autres furent quelque chose de terriblement compliqué.
Une vie, une œuvre, Antonio Gramsci, penseur de l'échec, une émission diffusée la première fois le 22 janvier 1987 sur France Culture.